Alors, cette proposition est utile parce qu'elle montre, je vais y venir, la vulnérabilité des paradis fiscaux. Parce que, supposons que les Belges, pour une raison ou une autre, une affaire du trou fiscal, ou je ne sais pas quoi, tout d'un coup se mobilisent sur ce type d'affaires, eh bien, si cela se généralise, et si toutes les sociétés qui font appel à l'épargne publique, comme ce serait normal, ne doivent pas avoir de participation dans les sociétés qui ont leur siège dans les paradis fiscaux, ou leurs filiales, eh bien, ça rompt tous les cordons et tout le mécanisme. Donc, on s'aperçoit bien que faire appel à l'épargnant, ce n'est pas seulement de la démagogie, parce que pour être citoyen, il faut avoir un petit peu de visibilité sur son avenir économique. Donc, l'épargne est un bien public. Et ce bien public, lui aussi, est mis en cause par les paradis fiscaux. Donc, nous allons bientôt en venir au débat. Je vais essayer d'être assez bref pour conclure un peu par quelques pistes cette journée en essayant de voir quelles sont les alliances possibles, quelles sont les stratégies, les recherches, les pistes possibles à mettre en œuvre pour lutter contre les paradis fiscaux. Nous avons constaté ce matin l'extrême nocivité et la montée en puissance de ces mondes sans loi. Cette montée en puissance, elle est due à une extraordinaire permissivité. Alors, il y a des phénomènes, on peut dire, objectifs. C'est la grande corruption qui anesthésie la volonté d'un certain nombre de nos dirigeants. Il y a le rôle de la Grande-Bretagne, qu'on a vu très précisément tout à l'heure, qui est militant en la matière. Et puis, il y a les connivences de notre monde occidental, de nos sociétés libérales, qui ont été rappelées tout à l'heure, une sorte d'adhésion en chacun de nous, l'anesthésie par la consommation, l'illusion de la liberté absolue, d'un monde sans contraintes, sans imposition, un monde sans loi. Or, comme le rappelle Hegel, la liberté absolue égale la terreur. Et nous pouvons y arriver plus vite que nous le pensons. D'ailleurs, le terrorisme, quand il y a eu le terrorisme, on a dit ben, on va lutter contre les paradis fiscaux. Mais vous comprendrez assez vite pourquoi on ne l'a pas fait. Tout cela, on le sait, et pourtant, la réaction est terriblement lente. Et c'est ça qui nous interroge. Qui en France, au-delà de quelques spécialistes, s'intéresse aux paradis fiscaux? D'ailleurs, quand on a voulu monter cette journée, on a vite fait le tour. On a vraiment le nombre de gens dans tous les domaines, y compris des gens très informés, qui sont prêts à s'engager dans ce combat, il est encore très faible. Alors, il y a un problème de prise de conscience. Cette prise de conscience n'est pas impossible. Il y a 5 ans ou 6 ans, le problème de l'effet de serre était quelque chose qui était réservé à quelques scientifiques. Aujourd'hui, grâce peut-être aussi à la canicule et à d'autres phénomènes, le problème de l'effet de serre commence à devenir un objet politique. Donc, ce n'est pas impossible du tout de penser que les paradis fiscaux vont devenir en France un objet politique. Il y a une association qui s'est fondée autour de la taxe Tobin, une taxe internationale, une imposition permettant de lutter contre les injustices dans le monde, qui s'appelle ATTAC, et qui s'est emparée déjà il y a quelques années de ce problème, grâce entre autres à son groupe paradis fiscaux, le groupe paradis fiscaux du conseil scientifique d'ATTAC, qui a fait un travail prodigieusement intéressant, en lien d'ailleurs avec quelques députés. Cependant, ce groupe même a quelques difficultés à imposer sa problématique au sein d'ATTAC, parce que ATTAC est une coalition, comme aussi les différentes tendances de la gauche française, et au sein de cette coalition, il y a des gens qu'on pourrait dire plutôt souverainistes, ou qui ont une façon de développer un discours qui consiste à croire que le seul ennemi, c'est l'impérialisme américain, les multinationales américaines ou le système capitaliste au sens classique, ce qui permettrait de ne pas regarder trop près ce qui se passe chez nous. Alors, ce courant anti-impérialiste a davantage raison qu'il ne l'imagine. Pour une raison simple que je n'ai pas le temps de développer ici, que j'ai fait assez longuement dans mon ouvrage Noir Chirac, c'est qu'en fait, l'essor des paradis fiscaux, on a parlé de beaucoup de motivations, mais il y a une motivation qui est absolument essentielle historiquement de mon point de vue, c'est la motivation, disons, militaire, stratégique ou militaire. L'essor des paradis fiscaux est largement lié aux stratégies de la guerre froide. Il a donc une dimension militaire essentielle, ou plutôt barbouzarde, dans les paradis fiscaux. En effet, dans la guerre froide, il y avait un certain nombre de stratégies interdites, comme la dissémination nucléaire, les renversements d'un certain nombre de régimes, le soutien, l'appui sur des forces fascistes ou autres, et tout cela ne pouvait être financé que par les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, notamment le Luxembourg, ça a été le développement de l'argent secret, des services secrets. Et plus une puissance est agressive, plus elle a besoin de développer un écran dans les paradis fiscaux. Et donc, la place des services secrets dans un pays est aussi tout à fait liée à l'intérêt de ce pays pour les paradis fiscaux. Regardez la famille Bush, dont le père était directeur de la CIA, ce qui a aussi permis certains liens économiques. Regardez en France la France-Afrique barbouzarde qui a envahi tout l'État français. Évidemment, ces stratégies militaires nécessitent de l'argent secret, et la présence des services secrets au sein de l'État, y compris aussi au sein de certaines entreprises ou de certaines opérations bancaires, fait qu'il y a un soutien stratégique, j'allais dire de raison d'État, aux services secrets. Et c'est la raison évidente pour laquelle, à peine la conscience a été prise que les terroristes agissaient par les paradis fiscaux, qu'aussitôt on s'est dit, mais si on attaque les paradis fiscaux, on ne pourra pas lutter contre les terroristes avec l'argent des paradis fiscaux. Et donc on est pris dans ce problème. Donc, je dirais, attaque est un peu prise dans cette contradiction, parce que sa composante souverainiste estime qu'il faut renforcer les souverainetés nationales contre l'impérialisme US, et cette frange-là hésite à combattre la France-Afrique et les paradis fiscaux comme Monaco. Elle n'a pas envie de voir que le souverainiste Pasqua et ses amis comme Falcon sont de vieux alliés des États-Unis et des précurseurs des paradis fiscaux tels Nadmi Aouchi au Luxembourg. Le souverainisme a partie liée aux paradis fiscaux parce qu'il a besoin de se doter de moyens de faire des choses interdites par le droit international. C'est exactement cela la France-Afrique. Mais quand on méprise le droit international, ce sont les autres peuples qui sont méprisés. Voyez les résultats dans nos ex-colonies. La lutte contre les paradis fiscaux est donc étroitement liée à la construction du droit international. Et il y a aussi, autre composante, un lien très fort que nous avons observé depuis une vingtaine d'années entre la criminalité économique et politique. On parle souvent de criminalité économique, mais les deux sont en permanence liés. Les coups d'État, les dictatures, les guerres civiles, il suffit de voir ce qui se passe au Congo-Kinshasa, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, dans de nombreux pays, même la guerre en Irak. La criminalité politique et la criminalité économique sont étroitement liées. D'où le fait que tous les progrès du droit international en la matière sont bons, et aux pessimistes, on a rappelé tout à l'heure l'exemple tout à fait incroyable de la Cour pénale internationale, qui, il y a 10 ans, aurait pensé qu'on aurait été capable de mettre en place cet instrument international. Donc cette lutte, on l'a dit tout à l'heure, et John Christensen a été tout à fait éloquent à ce sujet, doit être internationale. D'où le grand intérêt que nous avons à découvrir l'action du Tax Justice Network et l'évidence qu'il va nous falloir travailler avec eux sur leurs différents combats institutionnels auprès des Nations Unies et ailleurs. Cette lutte contre les paradis fiscaux doit donc être internationale, elle doit être aussi axée sur la solidarité Nord-Sud. C'est une autre de nos convictions. On ne bâtira pas un droit international contre les trois quarts de la planète. Et de nouvelles coopérations juridiques internationales sont indispensables qui intègrent les préoccupations des pays du Sud. C'est pourquoi l'approche onusienne de Tax Justice Network, plutôt que l'approche OCDE, est aussi importante. Et c'est pourquoi aussi la composante de solidarité internationale d'attaque, représentée entre autres par le CRID, l'ensemble du mouvement des associations de solidarité internationale, doit jouer un rôle d'aiguillon sur ce thème dans la galaxie altermondialiste. Comment s'y prendre? Premièrement, ne pas avoir peur. Parce qu'on a entendu plusieurs questions ce matin, plusieurs interventions, en disant « mais tout ça, ça dépasse nos forces, tout ça c'est insurmontable, c'est un mur, c'est le mur d'argent, il n'y a rien à faire ». Non, je pense qu'il y a un côté bulle, comme on parle de bulle financière, dans les paradis fiscaux. Il y a un côté factice, il y a un côté virtuel. Les paradis fiscaux, quelque part, c'est un jeu de miroir, c'est-à-dire qu'on organise... On organise depuis Londres le démembrement de la place londonienne, mais tous les leviers restent à Londres. Quand il y a eu le scandale Parmalat, il y avait une société dans les îles Caïmans, bien nommée, et des journalistes sont allés interroger cette société qui avait détourné des milliards de dollars. Mais cette société a dit « mais nous, on est une boîte aux lettres, en fait tout se passe à Londres ». Donc, si vous voulez, ce côté, nous sommes abusés par ce côté virtuel. C'est une partie de Bonneteau, vous savez, le jeu élémentaire où on vous montre quelque chose là alors que ça se situe là. En fait, c'est tout simple. Ça se situe au cœur de nos démocraties. Bien entendu, Monaco n'est pas à Monaco. Monaco est à Paris, c'est évident. Bon. Et une fois qu'on a compris ça, on s'aperçoit que finalement, c'est notre problème politique. Daniel Lebeg, qui n'est pas un plaisantin, l'ancien directeur de la Caisse des dépôts et consignations, la plus grosse institution financière française, disait qu'on pouvait fermer les paradis fiscaux en 2 ans. Donc, il suffit en fait de couper les cordons. Il suffit de dire qu'il y a des transactions qui ne se font pas avec certains territoires, et c'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le juge Van Ruymbeek, c'est d'une certaine manière le but de la proposition de loi un peu provocatrice de Daniel Galland, et c'est le but d'un certain nombre d'initiatives en la matière. Je donne un dernier exemple sur ces paradis fiscaux pour montrer aussi comment on peut susciter peut-être une forme de rejet. Tout à l'heure, vous parliez des paradis fiscaux comme un modèle idéal. Eh bien, c'est très curieux parce qu'il y a, je crois, dans la Tribune, il y a quelques jours, est paru un article sur Monaco et un article quasi publicitaire où Monaco se présentait comme un micro-État idéal, tout en étant le point d'ancrage des mafias russes, italiennes et autres en France. Et dans ce micro-État idéal, où l'on ne paye pas d'impôts, eh bien, la France reverse la TVA dépensée par les salariés français qui viennent travailler à Monaco et verse donc 100 millions d'euros par an à Monaco pour que les monégasques ne payent pas d'impôts. Alors, c'est le genre de petit détail sur lequel on pourrait s'appuyer. Parce que, évidemment, c'est la France qui paye l'éducation, la santé, les retraites, qui va payer les biens publics de ces salariés qui vont travailler à Monaco. Mais, quand même, c'est tellement utile aux activités occultes de l'État français qu'il faut en plus subventionner Monaco. Donc, puisque ces paradis fiscaux sont vulnérables, puisque finalement, ils se passent chez nous, la question, ce n'est pas eux, mais nous. Est-ce que nous voulons voir la terre saccagée, l'éducation, la santé et les retraites ruinées, la démocratie vendue? Comment susciter un refus collectif? Parce que le danger, il est là, il est évident, et le refus collectif tarde. Quelques pistes. D'abord, ce que nous souhaitons entreprendre à partir de ce colloque et continuer avec d'autres, c'est un considérable travail de pédagogie politique. Et je crois que ce travail peut être payant. Je pense que si vous avez suivi ce colloque aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui peut être expliqué. Les paradis fiscaux, ce n'est pas si compliqué. C'est un travail de conviction. Ceux qui perçoivent le danger doivent en alerter les autres. Et il faut trouver les meilleurs moyens de pédagogie. Et là, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire qu'il faut susciter des lieux de débat. Nous en avons suscité déjà un certain nombre en France. Et en général, les gens, au bout d'un certain temps, après être interloqués, se disent « mais quand même, c'est une vraie question ». Et puis, il y a Internet, il y a les artistes. Les artistes, ça peut beaucoup, beaucoup. Les artistes, les chanteurs, etc. Il y a tout un tas de relais possibles pour faire comprendre qu'on est là devant, je dirais, l'ignominie absolue. Parce que quand vous regardez les millions de morts qu'il y a derrière, je veux dire, les paradis fiscaux, ce n'est pas un thème anodin. Il y a la militance et puis il y a les opportunités. Les opportunités, heureusement, il en surgit de temps en temps. Et, excusez-moi, c'est la déformation professionnelle. Donc, il surgit de temps en temps des opportunités et quelque part, tous ces systèmes ont leurs propres contradictions, leurs propres lapsus. Et on peut se saisir de ces lapsus. Il faut aussi construire des alliances. Alors, ces alliances, notamment avec le monde du travail, parce qu'on a vu ce matin que l'ensemble des constructions des droits obtenus par le monde du travail, par le mouvement social depuis un siècle et demi, est menacé beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Les difficultés budgétaires de la France aujourd'hui, c'est rien du tout par rapport à ce qui sera dans 5 ans. Alors, on ne le voit pas. Mais là-dessus, on peut faire aussi un travail d'anticipation. Et puis, il faut aussi tisser des alliances nord-sud. Parce que là, on va prendre tout le monde à revers. Et je dirais, quelque part, c'est tout à fait inattendu. Parce que l'une des stratégies aujourd'hui, c'est de dresser le nord contre le sud et réciproquement. Or, quand vous avez Glencore ou le Prestige, comme on l'a dit tout à l'heure, le Prestige et Metal Europe, le Prestige et Metal Europe, derrière, il y a Glencore, dans le canton de Zoug. Glencore, Mark Rich, ce sont des gens ou des sociétés qu'on retrouve dans le contournement de l'embargo sur l'apartheid, c'est-à-dire la prolongation du racisme officiel d'État, et dans d'innombrables opérations de pillage des ressources minières, pétrolières ou autres, en Afrique et dans l'ex-Union soviétique, dans des proportions gigantesques. Et donc, quelque part, si en telle ou telle occasion, on pouvait construire des manifestations où des pays du Sud, détruits par l'action d'une société dans un paradis fiscal, s'associer à des gens dont la société a été délocalisée dans le Nord, je pense que ce serait porteur d'une très grande signification. Ensuite, il y a une dimension qui est peut-être relative et qui n'est pas la seule, une dimension d'action, à mon avis, qui est l'Europe. Bien sûr, aujourd'hui, on peut dire qu'on a perdu quelques batailles avec ce qui s'est passé dans la Constitution il y a quelques jours, mais ces batailles ne sont très loin d'être définitives, parce que si l'opinion publique se mobilise, on peut tout à fait renverser la tendance. Pourquoi l'importance de l'Europe ? Pour deux raisons. À cause de son attachement au bien public. Les États-Unis, c'est un petit peu moins l'attachement au bien public. L'attachement au bien public, je crois qu'il y a une très grande majorité de gens en Europe qui n'ont pas envie de voir disparaître les systèmes de santé, d'éducation et de retraite. Et que le jour où ils se rendent compte que tout cela est totalement menacé par ces mécanismes de paradis fiscaux, il y a une capacité de mobilisation. La deuxième raison, c'est que l'Europe, pour le moment, joue encore une place centrale dans les échanges internationaux, qu'ils soient de marchandises ou financiers, et que par conséquent, si elle se met dans une position de blocage par rapport à ces mécanismes destructeurs, ça peut avoir un effet de poids essentiel. Et donc, on a parlé d'utopie. Eh bien, nous avons une utopie. Cette utopie, c'est que d'ici 5 ans, dans un certain nombre de pays, peut-être pas tous, ceux qui voudront faire des coopérations renforcées, nous ayons fait un travail de pédagogie politique suffisant en Europe pour proposer, d'ailleurs comme le suggère ou ouvre la voie à la nouvelle constitution, un référendum pour ou contre les liens ouverts avec les paradis fiscaux, en ayant entre-temps convaincu les Européens de ces pays que c'est le choix entre la destruction de tous les garde-fous sociaux, écologiques ou de droits de l'homme et le maintien des relations avec ces paradis fiscaux. C'est un défi de réaliser ce travail pédagogique, mais je crois que c'est possible parce que je crois malheureusement que l'ampleur des dégâts et leur perception vont aller très vite. Et donc, ce que je vous propose, c'est que à l'issue de ce colloque, nous entretenions donc des contacts, nous prenions des contacts pour, en lien avec Tax Justice Network, en lien bien sûr avec ATTAC qui a un rôle pionnier en la matière, nous nous organisions pour développer au niveau français, européen et international les outils, les moyens d'un travail de pédagogie politique sur ce thème. Merci.